Il y a quelque chose de curieux dans le christianisme. C'est que l'on dit que le christianisme n'est pas dualiste, qu'il considère la nature, la matière, comme bonne parce que créée par Dieu. Et pourtant, on trouve dans les lettres de Paul de nombreux passages qui montrent une antinomie violente entre la chair et l'esprit. Paul qui parle des désirs de la chair, comme si ces désirs, dit-il, conduisent à la mort, et Paul parle des désirs de l'esprit qui mènent au contraire à la vie. Alors automatiquement, le lecteur moderne, quand il entend cela, quand il entend parler du désir de la chair qui conduit à la mort et qui s'oppose à la volonté de Dieu, pense à quelque chose de vaguement sexuel. On pense en tout cas à quelque chose qui serait relatif au corps. Et ça, c'est assez curieux parce que je crois que la théologie biblique a une cohérence globale. Or, on ne trouve pas dans la prédication du Christ de dévalorisation du corps, ni même dans l'Évangile, une tendance à ce qu'on appellerait l'ascétisme, qui viserait à dire qu'il faut sacrifier le corps, mortifier le corps pour élever l'âme. Et au contraire, il y a, vous savez, dans l'Évangile, quelqu'un qui représente cette tendance de l'ascétisme, c'est Jean-Baptiste, qui vivait très pauvrement, simplement, dans un désert en mangeant des sauterelles. Et le Christ représente plutôt l'autre côté. Et d'ailleurs, on le lui reprochait. Jésus lui-même dit, écoutez, qu'est-ce qu'il vous faut? Il y a Jean-Baptiste qui est là, qui vit comme un ascète dans le désert, et vous dites, il est fou. Et puis vous voyez là le Fils de l'homme, comme ça qu'il s'appelait, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un ivrogne et un glouton. Cela veut dire que Jésus avait la réputation de son temps d'être un ivrogne et un glouton. Ce n'est pas tout à fait l'image d'un ascète. Et donc Jésus, effectivement, n'était pas un ascète, et on le lui a même reproché. Je crois donc que cette question de l'opposition entre la chair et l'esprit nécessite une enquête complémentaire. Quels sont donc ces désirs de la chair que Paul fustige tellement pour qu'ils disent qu'ils conduisent à la mort et qu'ils s'opposent à Dieu lui-même? Pour ça, il faut essayer de savoir ce que veut dire le mot « chair ». Alors dans la Bible, là je peux répondre à cette question assez simplement. La chair dans la Bible, ce n'est pas la sexualité, ce n'est même pas le corps. La chair, c'est l'homme tout entier. D'ailleurs, il y a cette expression dans l'Ancien Testament pour dire « tout homme », on dit « toute chair ». Et ainsi souvent dans les psaumes, on dit « toute chair saura que l'Éternel est Dieu » ou « devant toute chair ». Toute chair, cela veut dire tout homme, tout être vivant. Et donc la chair n'est pas seulement la dimension bestiale de l'homme, mais ce n'est pas seulement sa sexualité, mais c'est tout l'homme entier dans sa totalité psychosomatique. Alors ce qui nous induit dans l'erreur, eh bien c'est la philosophie grecque, qui elle, vous le savez, oppose le corps et l'âme. Alors que dans la pensée biblique, le corps et l'âme sont indissociables. Et donc, dans la philosophie grecque, je vous disais, on oppose le corps et l'âme. Alors voilà cette pensée qui pollue notre compréhension de l'Évangile. C'est ce que l'on appelle la pensée orphique. La pensée orphique, c'est celle qui était professée par Platon, par les philosophes grecs, et qui ensuite, par ce que l'on appelle les gnostiques, et qui a eu une grande descendance jusque chez Descartes, et même chez des bons chrétiens, comme le père oratorien Malebranche, qui a professé cela. Cette doctrine, je dirais, cette doctrine poison, pourrais-je dire, c'est la suivante. C'est de dire, il y a des âmes éternelles qui sont des principes divins. Et ces âmes éternelles et divines, elles tombent dans des corps. Et ça, c'est une catastrophe pour elles. Parce que l'âme se trouve ainsi exilée dans un corps, sachant que le corps est mauvais, parce que la nature est mauvaise, et seul l'esprit est bon. Et alors, donc, dans cette pensée orphique, on va dire que le but de la vie va être de libérer cette âme de la prison qu'est son corps et de lui permettre de retourner à son principe divin. Et tant que l'âme n'en est pas capable, eh bien, elle va être condamnée à de nouvelles souffrances et par des réincarnations. Et donc, elle va se réincarner successivement jusqu'à ce qu'enfin l'âme arrive à se libérer du corps et enfin elle pourra retourner à son principe divin et à se trouver dans le bonheur éternel. Cette pensée est vraiment, je dirais, un poison parce que je suis chrétien, mais en tout cas est quelque chose de très fondamentalement anti-biblique. Et tant qu'on reste dans cette catégorie d'idées que l'âme s'oppose au corps, on ne peut rien comprendre à la pensée biblique. Mais il est vrai qu'il est resté, je crois, chez la plupart de nos contemporains et dans la pensée occidentale, cette idée que l'âme et le corps sont deux choses séparées et antagonistes. Or, vous disais-je, dans la pensée biblique, le corps n'est pas pensable sans âme. Pourquoi ? Parce que le corps, qu'est-ce que c'est ? Un corps, c'est de la matière organisée par un principe vital, et le principe vital, c'est ce qu'on appelle l'âme. Si vous prenez un corps et que vous retirez l'âme, vous n'avez plus de corps. Vous avez un amas de cellules qui se détruit très vite, d'ailleurs. Et donc, voyez-vous, un corps, eh bien, c'est de la matière informée par un principe vital qui est l'âme. Par conséquent, un corps sans âme, ça n'existe pas. On ne peut pas envisager de corps sans âme. Une vie, c'est une âme qui informe une matière, et c'est une âme qui est donc la, qui donne un principe, je dirais, d'identité de personne à une matière qui sinon ne serait qu'un amas de cellules sans organisation. Et ça, c'est valable d'ailleurs aussi pour les animaux. Les animaux aussi sont des corps animés. Voilà. La seule différence, dit Thomas d'Aquin, c'est que l'âme des animaux n'est pas immortelle. Ça, c'est une autre question. Toujours est-il que dans la pensée biblique, eh bien, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'âme. Un corps, c'est de la matière animée, et point, c'est tout. D'autre part, dans la pensée biblique, donc, il n'y a pas de préexistence des âmes. L'âme n'est pas un principe divin qui, tout à coup, se mettrait à informer de la matière pour former une personne. Mais selon la théologie biblique, l'âme est créée en même temps que le corps est conçu. C'est-à-dire que l'âme a un commencement et elle fait partie d'un processus vital. Et après, ce qui se passe à la mort, c'est une autre question. C'est une autre question, ce sera peut-être le sujet d'une autre prédication. Toujours est-il que l'âme, c'est cette chose qui fait que nous sommes quelqu'un et qui est que, par exemple, une personne âgée aujourd'hui de 90 ans se reconnaît comme étant la même que cette petite fille qu'il y a 90 ans ou 100 ans peut-être jouait à la marelle il y a un siècle dans un contexte différent, alors que son corps a été entièrement changé, entièrement renouvelé, que pas une molécule n'est la même entre le début et la fin, et pourtant il y a quelque chose de constant et de commun entre les deux, c'est l'âme, c'est-à-dire ce principe vital qui fait le lien. Au moment de la mort, l'âme cesse d'informer la matière. À ce moment-là, on n'a plus un corps, on a un cadavre qui se transforme rapidement en poussière. La question, évidemment, c'est de savoir que devient ce principe vital et est-ce que l'on peut envisager à ce moment-là l'âme comme étant une réalité qui informait un corps et qui n'informe plus un corps mais qui reste quelque chose néanmoins. C'est une autre question. Je ne voudrais pas la traiter aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à étudier. Donc, vous disais-je, cet ensemble psychosomatique de la vie, autrement dit, c'est ça que la Bible appelle la chair. Et, ou même qu'elle l'appelle âme. Parce que, par exemple, dans le psaume, on dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme ». C'est pas que mon âme qui bénit l'Éternel, c'est-à-dire ma vie. Et dans l'Ancien Testament, le mot « âme » peut être traduit, d'ailleurs, dans certaines traductions, par « vie ». Parce que l'âme, c'est la vie, et la vie, c'est l'âme, et notre vie, c'est d'être un corps, c'est d'être une chair. Et par conséquent, il n'y a pas vraiment de différence dans la Bible entre la chair et l'âme, puisque tous les deux sont liés, et dans les deux cas, ça représente l'ensemble de ce qu'est l'homme dans sa vie terrestre. Quand on a compris ça, on évite déjà pas mal d'erreurs théologiques. La première erreur que l'on évite, c'est celle de l'incarnation. Quand on dit au début de l'évangile de Jean « Et verbum caro factum est », c'est-à-dire « et le Verbe s'est fait chair ». Tout de suite, avec nos catégories issues de la philosophie grecque, on imagine que Dieu va s'enrober de chair, comme si une main qui va, si vous voulez, animer un gant. Et on a l'impression que Dieu, tout à coup, va s'enrober d'une chair visible, et que Jésus-Christ, eh bien, c'est Dieu lui-même qui pilote un corps sans âme. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait l'âme, en quelque sorte, dans le corps. C'est une hérésie qui ne fait absolument pas sens, qui d'ailleurs a été très largement critiquée par l'orthodoxie. Et quand on dit que le Verbe s'est fait chair, cela veut dire simplement que ce Verbe de Dieu, il va se trouver présent dans un homme, dans un individu complet, qui a sa propre liberté, sa propre intelligence, sa propre âme et sa propre autonomie en quelque sorte. Cela veut dire que le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, se trouve présent dans un être complet, avec une âme créée qui lui est propre et qui est celle de Jésus de Nazareth. Et cela permet de comprendre, effectivement, de façon plus subtile, ce qu'est le mystère de l'incarnation. Et la preuve de cela, eh bien, c'est par exemple les passages de Paul que je vous ai lus. En effet, en Galates 5:21, Paul va dénoncer les œuvres de la chair. Alors il cite la fornication, l'impureté, le libertinage, l'ivresse, les orgies. Ah, d'accord, ça effectivement, admettons, ça correspond à peu près à ce que nous imaginons être les péchés de chair. Mais curieusement, dans les œuvres de la chair, il ajoute aussi l'idolâtrie, la magie, la haine, la discorde, la jalousie, les emportements, les disputes, les dissensions et les envies. Là, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, ces choses-là, on appellerait plutôt ça des péchés de l'humain en général, de notre tendance purement humaine. Donc oui, c'est ça, les péchés de la chair, les œuvres de la chair, ce sont les tentations générales de l'être humain dans son ensemble et pas simplement dans sa dimension sexuelle. Et de même, quand Jésus parle du pur et de l'impur en Matthieu 15, dans les œuvres impures, il va dire l'adultère, la prostitution, d'accord, donc ces choses que l'on imagine, nous, être les péchés de chair au sens strict. Mais il cite aussi les propositions mauvaises, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. Et donc là, il ne s'agit pas de la chair au sens moderne du terme, mais bien de la tendance humaine en général. Donc vous l'avez compris, pour saisir ce que veut dire la pensée biblique, il ne faut pas envisager d'opposition entre le corps et l'âme, ni ou entre la chair et l'âme. Ce qu'il faut, c'est comprendre que la chair, le corps et l'âme, tout ça, c'est une seule et même chose, c'est notre vie, c'est notre dimension terrestre. Et tout cela, en bloc, s'oppose à quelque chose qui est l'esprit. Alors l'esprit, ça, c'est une autre notion. Dans la Bible, l'esprit, il n'y a qu'un mot, ruach en hébreu ou pneuma en grec, pour désigner soit l'esprit avec un grand E, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, soit l'esprit avec un petit E, qui est l'esprit de l'homme. Or, l'esprit dans l'esprit de l'homme, c'est cette capacité qu'a l'homme d'accéder à l'esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a du divin et il y a une puissance cosmique créatrice dans ce monde, qui est une puissance spirituelle qui pousse l'être, qui pousse d'abord le cosmos, l'univers, et qui pousse l'être à plus être, à de la complexification et vers le bien, pourrions-nous dire, et vers la vie. Et donc l'Esprit de Dieu, c'est cette puissance de Dieu qui pousse vers une dimension nouvelle. Or, il se trouve que c'est ça que l'homme a et que le radigou n'a pas, c'est un esprit. L'esprit, c'est cette capacité à s'ouvrir à cette dimension de l'Esprit de Dieu. Le radégou ne s'ouvre à rien du tout. Il vit dans la chair, il vit avec son âme vivante, il vit avec son corps, mais ne s'ouvre pas à une autre dimension. Et ce pneuma, cet esprit en nous, c'est donc ce par quoi nous sommes capables de recevoir en nous l'Esprit même de Dieu, d'entendre ce qu'il nous dit et ce qu'il nous fait savoir. Alors l'esprit, dans la langue de la Bible, c'est donc ce par quoi nous pouvons entrer en relation avec ce Dieu créateur du monde et créateur de nos âmes. Et cela, vous disais-je, les animaux ne l'ont pas. Ce n'est pas étonnant parce que cet esprit a rapport avec la question de la liberté. C'est d'ailleurs, autre verset biblique, je pourrais vous citer sans arrêt des dizaines de versets qui vont dans le sens de ce que je vous dis, mais je ne peux pas tout faire. Mais il y a ce célèbre passage en disant « là où est l'esprit, là est la liberté ». Et en effet, la différence entre l'homme et l'animal, c'est la liberté, c'est-à-dire la conscience de soi, et liberté en particulier par rapport aux anciennes programmations animales, et capable la capacité d'accéder à une autre dimension qui est celle de l'esprit. C'est en effet en ce que l'homme est libre qu'il peut accéder à l'esprit, parce que l'animal n'est pas libre. Il est lié par des programmations animales qui sont transmises génétiquement, définissent son propre comportement. Pour aller vite, on peut dire que l'animal est défendu, est programmé pour la défense du territoire, pour la loi du plus fort, pour la reproduction, pour sa propre survie, et un certain nombre de choses, et il n'a pas la possibilité d'inclure en lui-même d'autres types de programmation de vie, d'autres modes d'existence que ceux qui lui sont transmis génétiquement. Or, l'homme a une liberté, c'est-à-dire qu'il a des vieilles programmations animales qui demeurent en lui, de défense du territoire, de désir de pouvoir, de reproduction, de survie et de loi du plus fort. Mais néanmoins, il peut accéder à d'autres modes de vie, c'est-à-dire d'autres programmations, et il peut inclure une information interne qui le reprogramme pour agir autrement et pour se comporter autrement. Et c'est ça l'esprit. Et celui qui nous fait connaître cette nouvelle programmation spirituelle, dans la Bible, il est appelé le prophète. Le prophète est appelé dans la Bible Ish Haruach, c'est-à-dire l'homme de l'esprit. Et c'est le prophète qui dit, voilà, naturellement, vous avez tendance à réagir de telle manière. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas agir comme ça. Et ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce n'est pas naturel, mais c'est ça, la nouvelle programmation qui nous est transmise par l'esprit. Nous, chrétiens, nous pensons que le Christ nous a révélé cette nouvelle programmation, justement. Et il nous révèle un nouveau mode de vie, un nouveau mode de relation les uns avec les autres, et une nouvelle manière de comprendre notre existence. Et en effet, on le voit à tout l'Évangile, c'est une reprogrammation de l'être humain, qui se fait justement par l'esprit. Par exemple, contre la vieille programmation animale de défense du territoire, Jésus dira « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont un nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Nouvelle programmation animale, on n'est pas là pour défendre un terrier, un nid ou un territoire. Contre le désir de possession, Jésus dira « Heureux les pauvres !» Ça aussi, c'est une réalité totalement absurde pour l'âme matérielle. Et il donnera la valeur du don, qui est aussi la chose la moins naturelle qui soit. Contre la loi du plus fort, il dira « Qui s'abaisse sera élevé, et le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Et contre la volonté égoïste de survie individuelle, au prix de n'importe quoi, il dira « Qui veut sauver sa vie, la perdra. » Et donc, voyez-vous, il y a dans l'esprit une reprogrammation complète de la vie. Être chrétien, c'est prendre l'Évangile comme une nouvelle programmation pour vivre autrement et accéder à une autre dimension qui ne soit pas celle du terrestre, mais qui soit celle de l'esprit, c'est-à-dire de l'amour, du don, de la compassion et du service. Or, le problème, c'est que les anciennes programmations animales sont encore naturellement présentes en nous. Et c'est ça que Paul appelle la chair. C'est l'attachement aux choses terrestres. C'est la façon naturelle, humaine, tout simplement, de vivre. Et la chair chez Paul, eh bien, c'est l'humain en général. C'est-à-dire que l'humain qui naturellement est égoïste, jaloux, et qui se lance dans des luttes de pouvoir. Et la loi de l'esprit, eh bien, c'est cette nouvelle loi dont nous avons accès par le Christ et par l'Évangile, qui donne accès à une nouvelle dimension, qui est celle de l'esprit et qui est celle de l'éternité. Alors du coup, si vous savez cela, excusez-moi de ce long détour théologique, mais je crois que c'est important parce que si on sait cela, Paul devient limpide et cesse d'être culpabilisateur, je dirais, et moraliste. Et en effet, il va dire « La chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit des désirs contraires à la chair. » Ben oui, c'est vrai. C'est vrai que naturellement, je suis égoïste et que l'esprit, c'est l'amour. Et que par conséquent, je trouve dans la loi de l'esprit une loi qui n'est pas la loi naturelle de ma vie humaine. Il parle de la rédemption du corps. La rédemption, ça veut dire la libération en français. La libération du corps, notre vie humaine qui est appelée à se libérer de ses anciennes programmations animales. Ou encore en Romains 8, 12, il dit « Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs non pas envers la chair, pour vivre selon la chair, c'est-à-dire selon nos vieilles tendances archaïques. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Mais oui, c'est pas une punition. Mais si vous vivez comme des bêtes, vous mourrez comme des bêtes, comme les rats d'égout meurent et comme les fourmis meurent. C'est-à-dire que la chair, en tant que notre dimension terrestre, elle est, sans culpabilité et sans punition, condamnée à la mort. Mais par contre, dit-il, si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez, parce que l'esprit, c'est effectivement ce qu'il y a d'éternel en nous. Il dit encore en Romains 7, 18, « Je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. » Bien sûr, en tant que nous sommes des animaux, il n'y a rien de très positif là-dedans, ni de mauvais, mais simplement rien de spirituel. Car, dit-il, le désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et c'est la paix, parce que le désir de chair est inimitié contre Dieu. Oui, parce que Dieu, ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas la défense du territoire, mais c'est le don et l'amour. Donc voyez-vous, il n'y a pas d'antinomie. Il n'y a pas la chair qui s'oppose à l'esprit, en fait. Mais il y a une chair qui est première, qui est notre existence terrestre, qui nous permet d'accéder petit à petit à une dimension nouvelle qui est celle de l'esprit. Et donc, il n'y a pas l'esprit qui s'oppose à la chair. L'esprit, c'est une nouvelle dimension que la chair peut acquérir. C'est-à-dire que nous avons une vie terrestre, et puis cette vie terrestre peut s'ouvrir à une dimension nouvelle qui est celle de l'esprit. Mais cette vie terrestre n'est pas mauvaise, c'est elle qui nous permet d'accéder à l'esprit. Et cette vie spirituelle, elle s'appuie sur notre dimension charnelle et terrestre, et elle nous permet d'aller plus loin, d'aller au-delà et de dépasser justement le purement terrestre. Il y a tout un chapitre de Paul là-dessus, que je n'ai pas le temps de vous lire, en 1 Corinthiens 15, où il explique justement qu'il y a la chair et qu'il y a l'esprit, mais que ce n'est pas l'esprit qui est premier. Ce qui est premier, c'est la chair. Et il est vrai que, à la base, nous sommes des êtres charnels et que petit à petit, notre existence peut découvrir cette dimension spirituelle. Et plus nous arrivons à faire ce transfert, je dirais, de la chair vers l'esprit, progressivement, nous arrivons à accéder à cette dimension de l'éternité. Pour donner une image un peu triviale, je dirais que notre existence, c'est un petit peu comme la fusée Ariane. Il y a un lanceur et un satellite. Eh bien, au début, il y a un lanceur qui porte le satellite, et le satellite, il aurait l'air fin sans le lanceur, il resterait par terre, il n'y aurait pas de satellite. Eh bien, il y a le lanceur. Ça, c'est la dimension charnelle de notre existence, terrestre et corporelle, c'est notre vie sur Terre. Et ce lanceur peut justement porter un satellite. Et à un moment donné, le lanceur n'a plus de carburant. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il tombe. Mais le satellite, il est propulsé et il continue. Et c'est ça la vie éternelle. C'est cette dimension qui progressivement, je dirais, se cristallise, se concrétise dans notre existence. C'est cette dimension qui justement n'est pas de l'ordre de la chair, mais qui est portée par la chair, qui est une dimension d'amour, de service, de don, de générosité, de pardon, et qui progressivement devient une réalité indépendante et qui, je le crois, perdure alors même que la chair retombe, comme le lanceur de la fusée Ariane. C'est aussi ce que dit Nicodème dans le dialogue de Jésus avec Nicodème, où Jésus lui dit « Il ne suffit pas de naître de chair et de sang, il faut aussi naître d'esprit, parce que la chair et le sang ne servent à rien, mais que l'esprit fait vivre. » C'est ça, cette naissance spirituelle dont il est question. Et donc, ce n'est pas la chair qui est première, et c'est l'esprit. Mais en même temps, ce que je vous dis là, et qui est ma, ma profession de foi, je dirais, qui est très, très johannique, n'est pas, même si ça, vous le voyez bien, c'est une autre conception que celle traditionnelle de la mort et de la résurrection. Certains me disent, mais alors ça ressemble à l'immortalité de l'âme chez les Grecs. Eh bien non, pour deux raisons. L'une que je vous ai déjà dite, c'est que l'immortalité de l'âme chez les Grecs, c'est une âme éternelle qui tombe dans un corps et qui essaye d'en ressortir, alors que pour moi, l'esprit est une dimension qui naît à partir de l'âme, comme la fleur, je dirais, qui naît sur une plante. Et puis d'autre part, dans la pensée grecque, l'âme est éternelle par nature, parce qu'elle est divine. Alors que je crois que dans la pensée biblique, eh bien, l'âme est appelée à accueillir cette dimension spirituelle qu'elle n'a pas par nature. Et c'est en accueillant cette dimension spirituelle qu'elle peut naître à cette nouvelle dimension qui est celle de l'éternité. Alors aujourd'hui, selon notre calendrier, nous sommes dans le temps de l'Avent. Et ce temps de l'Avent, c'est justement cela, de rappeler que le fond de la vie humaine, c'est d'apprendre à accueillir une dimension qui vient de l'extérieur. Et que ce qui peut donner le sens à notre vie, ce n'est pas quelque chose, je dirais, de nous-mêmes, mais c'est quelque chose d'extérieur que nous sommes appelés à recevoir et à accueillir. La vie nous est donnée, l'esprit nous est donné, mais il faut que nous sachions l'entendre, cet esprit, que nous sachions recevoir cette vie, et que nous sachions même savoir porter, je dirais, cette vie spirituelle en nous, comme une mère porte dans son ventre une vie qui la dépasse et qui lui survivra. Cette image de la gestation, je dirais, dans laquelle nous sommes, dans ce temps de l'Avent aujourd'hui, est effectivement une très belle image, je crois, qui nous permet de comprendre cette dimension de l'homme qui est invité à s'ouvrir à l'esprit, pour vivre de l'esprit, pour vivre par l'esprit, sans opposition à la chair ou au corps, mais en dépassant une dimension ancienne pour être un être nouveau. Cet être nouveau, c'est l'être de l'amour, de la paix, de la joie, de la bienveillance, de la douceur, de tous ces fruits de l'esprit que Paul liste dans ce célèbre passage de l'Épître aux Galates, et c'est également celui de l'éternité qui nous est offert par l'esprit. Amen.